Que manger avant le départ d'une course nocturne ou un entraînement très matinal? C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, ce n'est pas une question qui vient du Hamster Running Club, mais une question que j'ai régulièrement, qui a un vrai débat. Je l'avais déjà eu sous différentes formes. Et puis là, je l'ai reçu avec un message très sympathique de Florence, que je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le message vraiment sympathique. Et elle s'interroge sur son alimentation avant une course nocturne, mais aussi un entraînement très matinal. Vous allez comprendre avec la question que il y a vraiment le cas spécifique des courses, mais aussi ce que nous faisons les uns et les autres en allant courir très tôt. Je vous donne la question de Florence et ensuite on pourra y répondre. Bonjour Bertrand. Après la dernière émission de nutrition, je me demandais si vous pouviez détailler un jour sur ce qu'il faudrait manger la journée avant un départ à minuit, par exemple comme la Saint-Élion. Perso, j'ai eu beaucoup de problèmes de nausées cette nuit-là. J'ai vu que c'était le cas de la majorité autour de moi. Alors, est-ce que c'est lié à ce qu'on mange la veille ou juste c'est normal parce que c'est la nuit et que normalement la nuit, on dort? On connaît en général ce qu'on mange la veille d'une course et le matin, mais quand le départ est à 23h ou minuit, que faire? Et aussi, elle me pose la question avant le départ d'un ultra à 5h30 du matin, sachant qu'on n'a pas hyper faim à cette heure-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire là encore? Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment manger quand on part courir tôt, genre 5h30, 6h pour un entraînement fractionné ou une sortie longue? Alors, la question, bien sûr, elle a différents paramètres. C'est une question qui n'est pas évidente. Les stratégies doivent être testées, individualisées. Mais pour donner un cadre, je vais répondre à cette question avec l'aide de Laure, car c'est aussi un rebond sur ce que nous avons dit dans une précédente Minute Perf. Et donc, on a à voir la vision de Laure. Et puis, en plus, ça permet de rajouter une présence féminine. Vous savez, dans cette semaine où j'ai décidé d'avoir que des infinités féminines, écoutez, le samedi aussi, on va rajouter un peu de présence féminine avec les compétences de Laure. Voilà. Mais juste avant de répondre, on fait une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub en plus de mes programmes et des coachings qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Laure.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu ce matin?
Bah écoute, c'est un peu drôle, hein. On était ensemble hier soir jusqu'à pas d'heure, là on rattaque ce matin de bonne heure, alors jusqu'à pas d'heure je précise, on va dire 19h, 19h30, on a fini d'enregistrer la minute perf, et là exceptionnellement on se retrouve ce matin, alors ça me fait drôle, mais en même temps c'est cool, cette semaine on a enregistré trois fois ensemble, j'ai l'impression que je ne vis plus que du podcast Kilomètre 42.
Eh bien écoute, tu reviens dans mon monde en fait, tu rentres dans mon monde, où moi Kilomètre 42 c'est tous les jours, tous les matins, tous les soirs, toute la journée dans ma tête, avec les autres podcasts aussi, parce que j'en rajoute un petit peu. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est vrai que c'est important, parce que je l'ai dit dans l'intro, c'est une question qui a un rebond quand même sur la partie nutrition, dans ce qu'on a raconté, et puis on est dans des semaines très féminines, et vous êtes tout seul dans mon podcast, le seul homme, tout moi-même dans mon podcast, sans avoir de présence féminine, je me disais, ça cloche un peu. Alors comme c'est un rebond par rapport à des choses que tu as dit, j'ai déjà lu la question, donc l'idée en fait, c'est une question qui, il y en a quoi? Il y en a deux, trois questions à l'intérieur en fait. Hein.
Pour moi, il y a trois aspects dans cette question, ouais. Elle est un petit peu longue, donc on va voir, on va la décortiquer ensemble, ouais.
Alors tu préfères décortiquer quelle partie en fait là? On commence par quoi? Parce que je me suis demandé si finalement il fallait commencer par les nausées ou si finalement les nausées étaient la conséquence de tout le reste.
Bah justement, moi j'ai envie de... je pense qu'en fait ça peut être totalement indépendant. Donc pour moi, j'ai vraiment essayé d'identifier les nausées à part. Donc pour moi, j'ai vraiment, voilà, quand la personne nous dit, j'ai pas le prénom de la personne.
Florence.
Qui nous a posé. Ok, ça marche. Donc Laurence nous dit, elle a eu des problèmes de nausées.
Florence, pardon, excuse-moi. Florence.
Autant pour moi, Florence, elle a eu des problèmes de nausées et elle a vu que c'était le cas de la majorité des gens. Alors, il faut savoir que courir de nuit, il y a quand même beaucoup de choses qui se produisent, notamment la nuit, normalement, notre corps, il dort, il récupère. Notre Normalement, on en parle beaucoup souvent hein, ici des hormones. Donc la nuit, normalement, il y a les hormones qui permettent de régénérer le corps, qui permettent de le faire dormir, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ben, sur un trail de nuit. Donc on va vraiment partir sur un trail 23h minuit. On va partir sur un trail comme ça. Hein. C'est sûr que bah, forcément, du coup, on ne dort pas. Donc on refuse à notre corps le sommeil. Donc ça veut dire que physiologiquement parlant, on va vraiment venir contrecarrer, contrebalancer des processus homéostatique, naturel. Alors c'est le matin, il faut être gentil avec moi, hein. J'ai ma petite voix du matin, j'ai mon petit cerveau du matin, donc ça va un petit peu moins vite. Voilà, du coup, donc on va à l'encontre de ce que le corps demande. Donc la nausée, elle peut déjà venir de là. C'est-à-dire que la nausée, hein, c'est un mécanisme de réaction de l'organisme. C'est un signal d'alerte hein, de l'organisme qui nous dit attention, il y a un truc qui ne va pas. La nausée, ce n'est pas que des problèmes gastriques, hein, faut être conscient de ça. Les nausées, la plus grosse problématique relative aux nausées, ce sont des problèmes d'oreille interne, de repères, de perception, d'acuité visuelle et notamment en fait, de décalage. Donc, c'est exactement ce qui se passe quand on est en voiture. Quand on est en voiture et qu'on est malade en voiture, en fait, c'est qu'il y a un écart entre ce que notre cerveau se représente de la route. Et les mouvements, effectivement, tu fais un signe avec ta tête, et les mouvements de la route. Et en fait, le cerveau n'arrive pas à s'accommoder, à faire le parallèle entre les deux, à synchroniser les deux trucs. Et du coup, c'est pour ça qu'il a des nausées. Il renvoie un signal en disant, voilà. Et pour autant, on n'a pas forcément de problème gastrique à ce moment-là, on n'a pas forcément faim. Donc moi, je pense, au regard de ma connaissance un peu de la course de nuit, du trail de nuit, que les nausées que décrit Florence viennent essentiellement, en fait, d'une non-accommodation, d'un non-entraînement à la course de nuit, qui est quand même donc, caractérisé par le froid, souvent à la Saint-Élion, la nuit, donc l'obscurité totale. Et en fait, ce qui vient, je pense, troubler la capacité attentionnelle, c'est les faisceaux de lumière. Tout le monde a des frontales. Et en fait, ça peut créer des micro-signaux, des micro-stimuli visuels qui viennent totalement perturber le cerveau parce qu'il fait noir partout. Mais il y a des petites frontales un peu aussi partout. Et du coup, bah, ça crée ce fameux écart dont j'expliquais par rapport à la route. J'interprète davantage la nausée comme un problème d'oreille interne qui n'arrive pas à se synchroniser, qui n'arrive pas à prendre des repères stables et fixes. On parle souvent hein, de personnes qui ont des nausées, qui font des rééducations chez un kiné, notamment en rééduquant tout le système vestibulaire, toute l'oreille interne, en faisant des tests avec la vision, etc., pour resynchroniser un petit peu tous ces repères proprioceptifs. Moi, je pense que avant de faire un travail de nuit, il faut déjà beaucoup s'entraîner la nuit. Et s'entraîner la nuit, c'est tout, sauf, alors moi j'habite Vichy, on a un plan d'eau qui est éclairé la nuit, c'est pas ça s'entraîner la nuit en fait. S'entraîner la nuit, ça va être justement de partir à la frontale pour s'habituer déjà à avoir le faisceau de lumière au sol, parce que c'est malgré tout assez déstabilisant, et puis aussi essayer de s'entraîner en groupe pour avoir le faisceau de lumière des autres personnes, parce que je suis convaincue qu'en fait c'est pas que son propre faisceau qui va créer ses nausées. Je pense que c'est vraiment le fait que le cerveau il comprend pas quoi, il se dit mais attends c'est le jour ou c'est la nuit quoi. Donc je pense que la nausée vient davantage de là parce que, a priori, il n'y a pas de raison sur le plan digestif, sauf grosse erreur, qui est particulièrement des nausées la nuit et pas le jour. Si on mange la même chose avant une course, etc. Donc, je suis en train de faire un petit peu la transition entre les deux, mais ce que je veux expliquer, c'est que il n'y a pas de raison particulière à avoir d'un coup des nausées sur une course de nuit quand on n'en a pas dans des courses de jour. Voilà, c'est un petit peu ce que je suis en train d'expliquer. Qu'est-ce que tu penses de cette question sur la nausée? Tu veux rajouter quelque chose?
Moi, j'aime bien cette vision-là et tout. Je sais que j'ai eu des nausées sur des courses de nuit et j'ai attribué aussi à mes repas. Donc, on en reparlera après. Mais peut-être que finalement, c'était une erreur, en fait. Tu vois, maintenant que tu me le dis, mes deux, trois premières courses de nuit, et j'adorais faire les trails nocturnes et tout. Moi, les trucs, les départs à 22h, 23h et tout. Mais j'ai toujours été pas très bien après. J'ai souvent attribué cette histoire à la partie alimentation. Je savais pas trop m'alimenter avant. Ça, c'est un truc. Mais peut-être, effectivement, tu vois, moi, je m'entraîne pas spécialement à la frontale. Mais l'autre jour, j'ai croisé des gens qui m'ont dit, pour préparer la Saint-Élion, ils se faisaient des départs à minuit. Et ils allaient dans la chaîne des puits, depuis chez eux, donc ils faisaient 50 bornes, ils rentraient à 5h du matin. Et justement, pour s'entraîner dans vraiment ces conditions, en groupe, etc., tu vois, et c'est vrai que moi, j'y pense pas du tout, mais c'est une très bonne remarque, je pense, pour ceux qui préparent ce genre de course.
Alors après, il y a quelque chose que j'ai pas, qu'on n'a pas dit et qui me semble intéressant, c'est finalement quels sont les symptômes associés à cette nausée. Parce qu'en fait, et c'est aussi pour ça que moi j'émets une hypothèse là sur le fait que c'est pas l'alimentation, mais peut-être encore faudrait-il avoir un diagnostic un peu clinique des principaux symptômes cliniques. Donc je vais en lister quelques-uns qui sont très spécifiques à la nausée relative à l'oreille interne. Et donc en fait, bah, Florence fera la part des choses. Si effectivement les symptômes que je liste, c'est vraiment ceux qu'elle a ressentis, bah, on peut penser qu'on est sur une nausée vestibulaire et qu'on n'est pas sur une nausée de type problème gastrique. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a sur des troubles de l'oreille interne? On est davantage sur une impression de la tête qui tourne. On a l'impression d'avoir le corps qui n'est pas ancré dans le sol, en fait, comme si on était sur un bateau et qu'on tanguait. On peut avoir la question d'avoir la tête qui est lourde, qui a envie de tomber, qui a envie de s'écrouler. Et effectivement, parfois, ces nausées, elles sont accompagnées de vomissements, mais pas toujours, ou des envies de vomir. Aussi, assez caractéristique des nausées, c'est la question des sueurs et des migraines. Et alors là, il y a quelque chose qui peut être observé d'un point de vue extérieur, de quelqu'un d'extérieur, c'est est-ce qu'il y a des mouvements anormaux des yeux? C'est-à-dire, en fait, les yeux ne vont pas arriver à se fixer. Et ça peut être vraiment le signe de nausées dites vestibulaires et donc qui ne sont pas relatives à l'alimentation. Et je vais faire la transition, Bertrand, ça ne te dérange pas parce que je le fais aussi par élimination, un peu comme un médecin ferait un peu un diagnostic clinique, on fait d'abord des hypothèses et puis ensuite on fait par élimination. Pourquoi je pense que ces nausées, elles ne sont pas dues, ou tout du moins majoritairement, à la question de l'alimentation? Bah, d'une part, parce que c'est ce que j'expliquais, pour moi, prendre le départ à 23h ou même prendre le départ à 20h ou à 18h, on fait des courses parfois tard. Florence pourra nous répondre, mais est-ce qu'elle a déjà fait ce type de course? Et si oui, est-ce qu'elle a déjà eu des nausées sur ce type de course? Donc ça, c'est une première chose à dire. La deuxième chose, c'est que en fait, quand on ne mange pas bien ou quand on mange pas suffisamment ou trop avant une course, la manifestation de l'alimentation, ça va être davantage des fringales plus que des nausées, en fait. C'est-à-dire que avant d'avoir des nausées par fringales, avant d'avoir des nausées par hypoglycémie, il faut déjà avoir puiser longtemps. Donc, c'est une autre piste de réponse que j'apporte. Si ces nausées, elles se manifestent davantage au début de l'effort, début de la course, typiquement, on est clairement sur un problème d'accommodation, on est sur un problème de perception visuelle et de décalage par rapport à tout ça. Donc, du coup, je rebondis sur, pour moi, la deuxième partie de la question. Florence nous demande si on peut détailler un jour ce qu'il faudrait manger pour une course avant un départ à minuit. Et donc, elle nous dit on connaît ce qu'on mange la veille d'une course, mais quand le départ il est à 23h. Alors, on peut détailler la journée, mais je vais être assez cash. C'est pas leur réac, c'est leur cash. Finalement, les repas de la journée, on va dire jusqu'au repas du midi, ils peuvent être classiques, ils peuvent être comme d'habitude, ils ne sont pas très importants. Il faut bien se souvenir de deux choses. C'est qu'en fait, l'alimentation, elle permet d'une part de constituer des stocks de glycogène pour faciliter l'organisme, pour faciliter l'apport de glucose à l'effort. Mais l'alimentation, elle doit, dans le même temps, ne pas perturber l'effort. Parce qu'on sait que finalement, en gros, c'est tout simple à comprendre, cette affaire-là. Hein. On n'en a pas beaucoup parlé, mais le corps, il va mettre en place des priorités. C'est exactement la même chose que quand c'est l'hiver et qu'on a froid aux mains et aux pieds. Pourquoi? Parce qu'il fait une vasoconstriction des extrémités, donc il n'apporte plus de flux sanguin aux extrémités en disant « Attends, je vais d'abord me focaliser sur les fonctions essentielles, donc je vais apporter de l'oxygène et du sang sur les viscères, le cœur, le cerveau, etc. » C'est pour ça qu'on a froid aux mains. C'est pour ça qu'on n'a pas froid à la tête d'abord. Donc ça, c'est une explication. Ben, c'est la même chose quand on court. Quand on court, qu'est-ce qui se passe? Si on vient de manger, bah, le corps, il est complètement perdu. Parce qu'en fait, pour digérer les aliments, il faut apporter beaucoup de sang dans les intestins. Donc, il faut que le corps amène de l'oxygène, amène du sang. Donc, en général, quand on mange, il y a une vasodilatation des vaisseaux sanguins des viscères pour faire travailler les viscères en grande partie. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir du repos à cette période-là pour permettre à l'organisme simplement de travailler là-dessus. Si on mange trop tôt avant la course, bah forcément, le corps, il est complètement perdu parce que les muscles lui demandent de l'énergie. Et le problème, c'est qu'en fait, le corps va aller vers les muscles. Le corps va envoyer du sang et de l'oxygène vers les muscles. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on court. Et en gros, on ne s'arrête pas. Et donc, puisqu'on ne s'arrête pas, il doit continuer de courir le corps. Donc forcément, la priorité pour lui, à ce moment-là, ça devient les muscles. Et donc, en fait, il n'envoie plus suffisamment de sang dans les viscères. Et donc, c'est pour ça qu'on a des troubles gastriques. C'est parce qu'en fait, le corps n'arrive plus à faire le travail comme il faut de digestion des aliments. Voilà. Donc, c'est ça l'explication, en fait. Donc, c'est pour ça que le repas du midi, ben, il n'est pas très important, parce qu'on sait que globalement, on a totalement digéré le bol alimentaire entre 3 à 6 heures, selon les individus, avant un effort. Donc, on voit bien que sur une course qui part à 23 heures ou à minuit, le repas du midi ou de 13 heures, il est très, très loin. Plus les aliments sont gras, plus ils sont difficiles à digérer. Il y a aussi des protéines comme la viande rouge qui sont plus difficiles à digérer. Et il y a un autre problème par contre. Alors oui, le seul truc sur lequel il faut faire attention sur la journée, c'est les fibres. Si vous pouvez limiter tout ce qui est fibres un petit peu irritantes comme les choux, les crucifères, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, bon, le psyllium, tout le monde n'en mange pas, mais tout ce qui est fibres des céréales complètes, etc., faut limiter les légumineuses. Ouais, les légumineuses au jour de la course, faut bien éviter. Bertrand est mort de rire, mais
non, mais moi clairement... je mange que du riz blanc bien tassé, tu sais, pour que ça fasse un bouchon, puis après ça sort plus.
Ouais, alors ouais, c'est pas forcément la solution non plus, mais il faut avoir des fibres. Je pense, par exemple, sur le petit déjeuner du matin, ça peut être bien d'avoir des tartines de pain complet ou de seigle ou de seigle complet ou ce genre de choses, de petit épeautre complet. Je crois que quelqu'un a un très bon pain de petit épeautre, mais
il était pas là ce matin, mon marchand. Je n'y ai pas encore.
Ah ben voilà, tu vas devoir y retourner.
Il dort.
Et donc, ça peut être bien. Après, il ne faut pas qu'il y ait un apport en fibres trop important. Voilà, c'est ça. Normalement, l'OMS recommande environ 35 grammes de fibres par adulte et par jour. Le jour de course, ce n'est pas grave si vous en avez un petit peu moins, parce que le but, ça va être de ne pas trop irriter les intestins, de ne pas trop les titiller, de les laisser un petit peu tranquilles. Donc, le midi, on peut être sur un repas majoritairement. On peut avoir des légumes, hein, on peut avoir des légumes comme des carottes, par exemple, qui sont des carottes cuites, ça se digère très, très bien. C'est souvent ce qu'on donne, d'ailleurs, à des enfants quand ils ont la gastro. On fait carottes cuites riz. C'est le premier légume qu'on leur donne. Ça veut dire que le système digestif, il le tolère plutôt très bien. Donc, plutôt cuit, pas cru. Pour plein de raisons, hein, on ne va pas rentrer dans le détail. Clairement, des petites carottes Vichy, ben, c'est super bon. Une petite écrasée de carottes avec un petit peu de beurre, hein, c'est très très bon, avec un peu de riz. Alors, ça peut être du riz, des pâtes, voilà, ça peut être des choses. Après, ça dépend aussi de la sensibilité des gens, justement, à ces problèmes de digestion. Moi, je sais que je ne suis pas du tout sensible et que. Enfin, je ne suis pas sensible à ce genre de problème-là. Je vais être sensible au gluten, donc je vais en parler aussi, par exemple. Mais par exemple, moi, je ne vais pas avoir trop de sensibilité sur le problème d'un transit perturbé. Donc, si effectivement vous avez des intolérances particulièrement marquées à l'effort, hein, ça arrive, c'est ce que j'expliquais l'autre jour, c'est que parfois on n'est pas intolérant dans notre vie de tous les jours, mais on l'est un petit peu plus quand on met le corps à l'épreuve. Donc, lactose, gluten, faut faire attention à ça sur le jour de la course particulièrement. Et puis ensuite, c'est là où on approche quand même un peu de l'heure fatidique, et c'est là où il y a des choix intéressants à faire. Alors, ça va dépendre de ce dont on a envie, parce qu'en fait, le jour de la course, il ne faut plus raisonner en termes d'alimentation santé. Je reviens un peu toujours à ça, hein, mais c'est toujours quel est l'objectif. Là, on est sur une logique de performance. Et donc, on n'est pas sur une logique de santé. Donc, ça veut dire, logique de santé, suivre les recommandations de l'OMS, avoir tant de macros, tant de fibres, avoir un repas équilibré, etc. Non, là, on n'est plus là-dessus. On est vraiment sur une logique de qu'est-ce qui va me rendre performant ? Qu'est-ce qui va faire que je vais être performant ? Et si le repas qu'on va prendre pour nous permettre d'être performant, c'est vraiment un repas qui n'est pas du tout équilibré, à plein de niveaux, je suis pas en train de dire qu'on va aller manger un fast-food, mais c'est pas grave, parce qu'en fait c'est ça qui est important. Donc pour moi, le repas important sur une course comme ça, ça va être un repas qui va être pris déjà vers 17-18 heures. Ce sera entre guillemets un petit peu le dernier gros repas. Si c'est plus tard, c'est mieux, hein, si c'est 19 heures. Mais moi je sais que par exemple, si je mange à 13 heures et que je ne mange pas, enfin, j'ai besoin de manger assez tôt, mais le dernier repas, ouais, on va dire 19h, dernier gros repas de la journée, ça serait bien qu'il soit fini à 19-20h max, quoi. Et ça peut être deux types de repas. Ça peut être un repas, entre guillemets, dit du soir classique, dans lequel il y a quand même majoritairement des glucides, parce que ça se digère plus facilement, des glucides à index glycémique bas, pour avoir une diffusion lente dans l'organisme. On peut y ajouter du bon gras pour justement... limiter cette absorption, quelques protéines. Moi, je déconseille quand même les protéines animales. Ça peut être des œufs, par exemple, c'est des protéines douces qui se digèrent plutôt très bien. Ça peut être du fromage blanc, ça peut être ce genre. Alors après, il ne faut pas être intolérant au lactose. Mais... Donc, un repas un peu classique, finalement. Voilà, ça, c'est si on a envie de manger salé, si on a envie d'avoir un repas un peu type normal. Moi, le conseil que j'ai envie de donner, et moi, c'est ce que je fais quand je fais des épreuves... comme ça tard, ou que j'enchaîne souvent sur des trails plusieurs jours, enfin des raids sur plusieurs jours et tout, moi j'adore manger sucré. C'est-à-dire, Je me fais, en fait, je me fais l'équivalent de mon petit déj de course, mais décalé dans ma journée, en fait, c'est-à-dire à cette heure-là. C'est-à-dire, en gros, mon petit déj de course que j'adore, je peux le détailler, je vais le détailler, hein, eh ben, dans ce cas-là, je le ferai pour qu'il soit fini à 19h30. Moi, j'aime bien avoir fini mon repas 3h30 avant l'effort, 3-4 heures avant l'effort. Donc, si on est à 23h, voilà, on est pas mal. Donc, bah, ce petit déj, c'est quoi? Bah, dans mon petit déj, j'ai toujours une protéine. Souvent, je prends des œufs avec du pain. Moi, je suis pas sensible, j'ai dit, donc, voilà, je continue d'être sur du pain complet. Après, si j'ai envie de me faire plaisir, je peux être sur un pain un peu moins complet ce jour-là. Donc, des œufs, du pain. Moi, j'adore l'avocat. Donc, j'adore le mélange pain-œuf-avocat. Donc, ça, c'est souvent ce que je prends avant une course. Si j'ai encore un peu faim, je vais reprendre un peu de pain avec du beurre d'amande ou du beurre de cacahuète. Non, je mange pas de belin à cette heure-là. Par contre, effectivement, là, là-dessus, je suis très raisonnable. Et donc, voilà, en gros, ça, c'est un peu mon petit déj. Et en fait, l'objectif, de toute façon, la faim, elle est perturbée. La sensation de faim, elle est perturbée. Il faut pas du tout écouter sa sensation de satiété sur le dernier repas avant la course, parce que bah, on est stressé. Et quand on est stressé, ça a forcément une incidence sur notre faim. Il y a des gens chez qui, et j'en fais partie parfois, ça donne encore plus faim. On se dit, ah, j'ai pas assez mangé, je vais pas être bien et tout. Et il y a des gens chez qui ça coupe totalement la faim. Donc, il faut pas du tout écouter ces sensations de satiété. Il faut vraiment pas écouter ça, parce que c'est le pire conseil et le pire repère. Parce qu'en fait, notre corps n'est plus un repère. Notre corps, il est perturbé. Il sait qu'il va vivre un effort qui est perturbant. Et donc, voilà. Donc, il faut rester sur des choses un peu académiques, on va dire, un peu objectives. Il faut rester sur des choses qu'on connaît, donc avoir un apport en macronutriments et en quantité d'énergie qui est suffisant. Donc ça, c'est à vous de le calculer sur la journée en fonction de ce que vous aurez pu manger en termes d'apport énergétique. Mais globalement, c'est un repas qui, quand même, énergétiquement, est important. Hein. Voilà, je voulais dire un autre truc, mais ça m'est parti.
Non, mais tu sais, moi, par exemple, je trouve que le départ à minuit encore ou 23h, il est pas super perturbant, tu vois. Parce que finalement, le repas, tu peux manger à une heure presque classique, tu as dit, en adaptant le repas. Et les trucs sont un peu plus perturbants, c'est si tu as un départ à 20h, 21h, ou là, bah, l'astuce du goûter, moi, je trouve qu'elle est pas mal. Finalement, ton goûter sucré, ça tombe plus dans des horaires. Je sais pas, j'ai un départ à 20h, ça fait prendre à 16-17h, on est dans le goûter, on est pas mal.
Ouais, j'ai fait des trails comme ça l'été, 20h et tout, et effectivement, c'est ça, tu te fais un goûter à 16h. Mais en fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, en fait, on peut même extrapoler tout. L'idée, c'est que 3h30, 4h avant la course, votre repas, il est terminé. Faut pas commencer le repas, il est terminé 3h30, 4h avant la course. Et ensuite, dans ce dernier repas, clairement, le but, c'est de manger des choses qui vous font plaisir, que vous allez pouvoir ingérer. Donc, en l'occurrence, moi, bah, pourtant, je suis pas bec sucré, hein, c'est marrant, hein, je vais être très bec salé au général, mais c'est comme si je me rassurais avec ce... Parce qu'effectivement, elle le dit très bien, Florence, on sait ce qu'on mange avant une course ce matin. Et en fait, je pense que c'est juste ça. Du coup, je me rassure avec un repas que je sais, et aussi avec un repas que je sais que je tolère. Parce que c'est ça qui est important. Voilà. Et donc, effectivement, comme tu le dis, Bertrand, c'est ça l'idée, c'est que bah, ce petit goûter petit-déj, on le connaît, on le digère. On sait qu'on n'aura pas de trouble gastrique derrière. Donc ben moi je le prends, je le mets 3h30 avant et puis voilà. Je sais que par exemple, je vois souvent, alors j'ai des exemples autour de moi de personnes avec qui j'ai vécu qui se faisaient des petits déj de compète. Et effectivement, moi je pense à Guillaume, il se reconnaîtra et clairement lui il va avoir un petit déj énorme avec des céréales. Alors c'est un gars donc il mange plus et tout, du pain, des céréales et il va toujours finir. Par des céréales dans du jus d'orange. Alors ça m'a toujours fait rire. Oh. Et c'est son petit plaisir à lui. Ouais. Et voilà, et au final, c'est ce qui compte. Et en fait, il le digère super bien. Et je vois Marine Leleu, elle va prendre du riz avec du fromage blanc. Elle fait un mélange, fait cuire son riz et tout. Chacun a ses petites astuces, chacun a ses trucs. Après, ça peut être des gâteaux sport. Je sais que Happy Run propose un gâteau sport qui a l'air bien sympa, là, que tu as mangé aux 24 heures. Alors, ça peut être des stratégies intéressantes aussi, parce que c'est des trucs qui sont conçus pour l'effort. Mais à l'unique condition de les avoir testés avant, en condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez que votre dernier repas, ça soit un gâteau sport d'Happy Run, eh ben, il faut que ce gâteau sport, vous l'ayez testé 3-4 heures avant une séance dure, une séance difficile, un jour. C'est tout. Voilà. C'est pour savoir si, en général, c'est des produits tellement sains et tellement, tellement bons qu'on les digère. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais l'idée, elle est quand même là. Autre chose, je voudrais quand même parler d'un autre truc avant de basculer sur l'alimentation du matin. C'est on fait quoi entre ces 4 heures et ce moment du départ? En fait, on a toujours, enfin moi, j'ai toujours des petites sensations de faim. J'ai toujours l'impression que j'ai pas assez mangé et qu'il manque un truc. Donc, en fait, on peut regrignoter des choses. On peut avoir une ce qu'on appelle une boisson d'attente, hein, une boisson un petit peu d'effort d'attente. On peut, c'est possible, remanger une petite barre. Mais à l'unique condition, il y a vraiment un truc à respecter qui est hyper important. C'est rien dans les trois quarts d'heure, une heure qui précède la course. Et quand je dis rien, c'est même pas beaucoup de glucose dans les boissons d'effort. Parce que, souvenez-vous, j'avais expliqué ce phénomène de l'hypoglycémie réactionnelle. Je le réexplique très très vite parce que c'est important de l'entendre. Quand on commence un effort physique, globalement, notre corps, il va libérer plein de molécules de glucose dans le sang pour l'envoyer aux muscles. Parce que les muscles vont demander du glucose. D'accord. Mais dans le même temps qu'il y a du glucose, enfin, donc ça c'est le mécanisme en fait où on va, donc l'organisme va venir capter beaucoup de glucose. Sauf qu'au début de l'effort, il va pas avoir le temps d'en libérer suffisamment parce qu'il y a une sorte d'inertie qui va se produire. Donc en fait, au début de l'effort, les muscles vont capter le glucose directement disponible dans le sang et va épuiser un tout petit peu le glucose disponible. Donc en fait, notre glycémie va baisser au début de l'effort, c'est normal. C'est tout à fait normal. Sauf que notre corps est bien fait et ça ne va pas baisser jusqu'à un point trop bas. Il va rétablir le truc en libérant du glucose dans le sang par le mécanisme de glycolyse ou voilà, de dégradation des stocks de glucose. Donc de la glycogénolyse ou la glycogénèse, peu importe. Mais si on mange dans les trois quarts d'heure avant l'effort, qu'est-ce qui se passe ? Ben, souvenez-vous, j'avais aussi expliqué le phénomène de la glycémie. C'est que quand on mange, dans les 20-30 minutes qui suivent le repas, on a un pic de glycémie. On commence à avoir un petit creux qui est normal, même si on mange hyper bien. Pourquoi ? Parce que, en fait, on a libéré plein de sucre dans le sang. Pareil, il y a toujours eu cette inertie où le corps, il n'a pas eu le temps de venir capter le glucose. Donc, au bout de 20-30 minutes, c'est le branle-bas de combat dans le corps. Il se dit, hey, coucou les gars, là, on a un taux de glucose qui est trop important. Captez-moi ce glucose parce que c'est pas bon pour nous, quoi. Donc, qu'est-ce qui se produit si on mange trois quarts d'heure avec un... On est pile poil. On va synchroniser, en fait, deux mécanismes de captation du glucose dans le sang. Celui du repas et celui de l'effort. Et donc, en fait, on va avoir un double mécanisme de captation parce que le corps, il est quand même pas hyper non plus pointu là-dessus. Il se rend pas trop compte des trucs. Et donc, en fait, on va capter beaucoup plus de glucose que ce dont on aurait dû capter. Parce qu'en plus, il y a le mécanisme d'insuline qui se met en place du repas et il y a le mécanisme de captation pour aller vers les muscles. Donc, en fait, on se retrouve vraiment en hypoglycémie dès le début de l'effort. Donc c'est pour ça que ça c'est vraiment important, ne rien manger dans l'heure, moi je dis toujours l'heure qui va précéder la course. Donc ça c'est la première chose, c'est le qu'est-ce qu'on fait entre le dernier repas et l'effort. Maintenant, on a aussi la question de. J'enchaîne, hein, Bertrand, sauf si t'as un truc à.
Oui, non, enchaîne. Non, mais ça me fait rigoler parce qu'à une époque, on m'avait donné un conseil de manger une barre sucrée juste avant les départs, tu sais, des trucs comme ça. Mais maintenant, alors, moi, j'ai jamais vu le truc. On m'a dit c'est pour donner un coup de fouet, un peu de sucre, etc. Mais j'ai jamais vu la différence.
En fait, il vaut mieux la prendre au bout de 10 à 15 minutes d'effort.
D'accord.
Il y a un truc à faire parce qu'en fait le corps se sera déjà autorégulé en fait. Et là toi je t'ai expliqué concrètement ce qui allait se passer si tu la prenais avant ou alors la prendre une heure avant. Parce D'accord. qu'à ce moment-là on sera déjà dans la dégradation, on sera
alors
déjà
que moi je la mange sur la ligne de départ en fait. Moi tu vois je prends un sneaker, je mange sur la ligne de départ. Non mais véridique, j'ai fait mon 10 km de mes 40 ans avec en mangeant un sneaker juste avant la ligne de départ. Et comme quoi c'était il y a 6 ans. Attends, 6 ans et demi, tu vois, mes connaissances étaient vraiment infimes à l'époque.
Alors le sneaker de toute façon quoi qu'il arrive, tu le manges pas dans l'heure avant. Parce que
Arrête.
Pour le coup, c'est vraiment un index glycémique qui est trop élevé, c'est du sucre, du gras. L'organisme il va enfin tu vas le payer hein, ça c'est sûr. Donc si vous voulez manger quelque chose, c'est vraiment un index glycémique très bas, même si c'est un gel, il faut privilégier des gels à index glycémique bas. Si c'est une barre aussi, mais quoi qu'il arrive, une barre pas au début d'effort, sauf si c'est un trial, mais pas une barre au début d'un D-board, quoi. Enfin, voilà, après il y a des efforts comme ça. Là on est sur des efforts longs, donc c'est pas très grave de manger du solide. J'enchaîne, Bertrand ?
Enchaîne, ouais.
Que tu m'as dit, il ne faut pas être bavard, alors j'essaie d'aller vite.
Non, mais on avait dit, on veut faire 30, on va faire un peu plus que 30, je pense, mais on va pas faire 30.
Mais je donne
plus.
Une réponse aussi, quand même.
Non, mais ta réponse, elle est vraiment... Non, mais je pense vraiment, tu as raison de montrer les trucs, parce que ça explique, et on est aussi sur cette notion d'éducation, de comprendre, de répéter
parce
les choses.
Parce que si je dis aux gens, mangez pas pendant l'heure et que je n'explique pas, c'est nul, tu vois,
mais
ça sert à rien.
Je suis entièrement d'accord avec toi. T'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne sois pas stressé, je te sens stressé sur le timing.
Non, pas du tout.
Moi, l'horloge, tu sais, elle regarde, t'inquiète pas, le maître des horloges est en train de regarder.
Non, mais après, sinon, on va faire une lore perf, samedi matin, les gens, ils vont plus rien comprendre. Ils vont, ouais, tu vois, ils vont avoir des nausées parce qu'ils vont être décalés dans leur cycle, tu vois. T'as vu?
Punaise, pas mal. Voilà, là.
Bon, allez, ils vont avoir la nausée de nous à force de nous entendre.
Oui, surtout de moi, d'après la question qui est quand même
arrête, ça suffit. Bon, je vais pas dire un t'es con parce que c'était le défi d'hier, mais bon, tu l'aurais mérité. Alors, dans la question, on nous dit aussi, Florence nous dit, et aussi un départ d'un ultra à 5h30 du mat, sachant qu'on n'a pas hyper faim à cette heure-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ça, pour moi, presque, j'ai envie de dire, c'est presque plus problématique.
Que
le départ de la veille. Parce que le départ de la veille, on est réveillé. On est éveillé. Notre corps, il est OK pour manger. On peut maintenir un niveau d'éveil suffisant. Alors, j'incite pas les gens forcément à le faire, mais on peut maintenir moi, je sais que je le ferais, par exemple, si je faisais la Saint-Élion, je pense que je prendrais de la caféine sur la journée d'avant. Parce que pour le coup, je suis une grosse dormeuse, je dors très tôt, et donc, moi, un départ à 23h, je suis déjà couchée, quoi. Donc,
c'est 2 heures que tu dors, toi.
Ouais, voilà, bah oui. Donc, je garderais des niveaux d'éveil avec de la caféine, avec du thé, avec ce genre de choses. Donc voilà. Le matin, départ à 5h30, quelle est la problématique? J'ai dit qu'il fallait manger et avoir terminé le repas 3h30, 4h avant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, concrètement, il faut se lever à 1h30 pour manger, quoi, si on respecte le truc. Donc, sur un départ de trail à 5h30, c'est vraiment ultra compliqué. Pour le coup, c'est vraiment ultra compliqué. Donc moi, le conseil que je donne, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut toujours se lever 1h, 1h30 avant la course, parce qu'on n'est jamais pile poil au pied de la course, le temps d'y aller, d'aller sur la ligne et tout. Donc moi, en fait, sur un ultra, si c'est un ultra à 5h30, on sait très bien que sur un ultra, on va pouvoir plus ou moins digérer des aliments. On va pouvoir consommer des choses. Donc moi, le conseil, ça serait de se lever 1h30 avant, ce qui est un réveil qui serait un peu obligatoire pour aller... Donc on maximise quand même le temps de sommeil. Et on mange des choses, entre guillemets, sèches, faciles à manger, quitte à les manger sur la route pour pas perdre trop de temps. Le but, c'est de maximiser le temps de sommeil. C'est vraiment ça, le conflit. Et des choses qu'on sait qu'on va bien digérer. Et donc déjà, peut-être d'emblée, des trucs un peu tout faits comme le gâteau sport dont on parlait, des bars qui nous plaisent. Donc on est déjà en fait dans une logique d'alimentation effort, c'est-à-dire que ce qu'on mange 1h30 avant, c'est ce qu'on pourrait tout à fait manger pendant la course. Voilà, on est sur des choses qui sont faciles à ingérer et rapides à digérer. Donc être sur des routines, voilà, des routines de type course, et de manger exactement la même chose. Départ à 5h30 et tout de suite, on va dire, aller dès les 20 premières minutes, remanger très rapidement. C'est-à-dire ne pas attendre, comme on le fait d'habitude, la première heure de course ou les 40 premières minutes, 45 minutes. On dit souvent qu'il faut manger à peu près dans ces eaux-là. Là, il faut tout de suite remanger. Il faut tout de suite remanger de manière pas importante, mais remanger peut-être un peu plus que d'habitude, que ce qu'on aurait pu manger d'habitude, même au bout d'une heure. Voilà. Le but, ça va quand même être d'apporter de l'énergie. Parce que, et je vais rebondir sur le fait de fractionner le matin, etc., dans la minute perf qui sortira lundi, j'explique le fait que la femme a une capacité oxydative moins importante que les hommes. Et donc, en fait, que nous, on a une capacité oxydative plus importante, mais on a une capacité à utiliser nos stocks de glycogène moins importante. Ça veut dire que déjà, pour vous, Florence, c'est déjà une approche, entre guillemets, de doubler les quantités de glucose par rapport aux hommes. On en parle dans l'épisode de lundi. Et ce que je veux dire aussi, c'est que là, il n'y aura pas de sensation de faim. Et à nouveau, il ne faut pas se faire avoir par son corps et par ses repères. Surtout la nuit, on a des repères qui sont plus perturbés. Et en fait, il faut manger même si on n'a pas faim. Donc ça, c'est important. Après, autre chose que je veux dire, qui est quand même aussi très importante, ça dépend de l'heure à laquelle on se couche sur ce fameux trail de départ. C'est très rare de se coucher très tôt quand on court. Mais moi, je pense que si on fait un dernier gros repas vers 20h la veille, qui est très riche en glycogène, déjà aussi, on maximise ses chances. Parce qu'en fait, on va vraiment venir maximiser les stocks de glycogène sur ce dernier repas de la veille au soir. Et donc, je rebondis sur la dernière question dans cette question, qui était, est-ce qu'on peut manger quand on part courir tôt pour un entraînement fractionné ou pour une sortie longue. Alors là, ça va vraiment rejoindre ce qu'on a dit avec l'épisode de Nathalie Simon sur les objectifs de santé ou de performance. On a expliqué en fait que c'était la première chose à se poser comme question. Est-ce que là, je vais courir dans une logique de performance ou est-ce que je vais courir dans une logique de plaisir? Quand on a une séance de fractionné à faire, c'est qu'en fait, on va pousser son corps, on va chercher à développer ses ressources parce qu'on sort de notre zone de confort. Donc, on est dans une logique de performance, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, même si on a du plaisir à faire le fractionné. On est en partie dans une logique de performance. On est en partie dans une logique de développement des ressources. Donc, à ce moment-là, oui, moi, je pense qu'il faut manger avant une séance de fractionner. Et donc, il y a deux solutions. Et moi, c'est quelque chose que j'ai abordé avec une personne que j'encadre il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, qui me disait ça. Il voulait courir à jeun. Je lui dis, OK, très bien, courir à jeun le matin, pas de souci. Si c'est une sortie longue, si c'est une sortie douce, si c'est une sortie dans laquelle il n'y a pas d'allure, dans laquelle on ne met pas le corps à l'épreuve. Si on doit faire du fractionné et qu'on n'a pas le temps de manger, parce qu'en l'occurrence, 5h30, bah, on retrouve sur la même problématique, on n'a pas le temps de manger, et ben moi, je pense qu'il ne faut pas faire la sortie le matin. C'est-à-dire qu'il faut mieux manger le matin et placer sa sortie à un autre moment de la journée de fractionner. Parce que le corps, il n'est pas fait pour faire du fractionné. C'est possible, hein. Je ne dis pas que c'est possible, on ne va pas s'effondrer. À nouveau, je ne suis pas en train de dire que le corps n'est pas capable. Mais dans une logique de performance, bah, on ne va pas maximiser nos ressources. Donc, on ne va pas maximiser notre potentiel sur la séance. Et donc, finalement, c'est un petit peu comme si on faisait une séance à 80 ou 70% de notre max parce qu'il nous manque de l'énergie. Je ne dis pas que ça ne va pas faire travailler d'autres fonctions physiologiques. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Ça va faire travailler des choses. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Parce que ce qu'on recherche sur une séance de fractionné, c'est de pouvoir se donner à 200% de nos capacités. Et c'est le fait de pouvoir utiliser l'ensemble de nos ressources. Donc, une nouvelle fois, c'est toujours ce distinguo entre est-ce que je vais courir pour m'entraîner parce que j'ai un objectif de performance et là la séance que je suis en train de faire elle contribue directement à mon truc et donc forcément il faut que je mange. La preuve, le premier conseil qu'on donne c'est avant une course faut manger. Donc si on était plus performant sans manger avant une course, ben, on dirait depuis des années on dirait mais arrêtez les gars de manger, faites un petit jeûne. Voilà, donc on sait très bien qu'il faut manger avant un effort parce qu'on est plus performant. Par contre je ne dis pas que le fait d'aller courir à jeun, ça n'a pas d'autres propriétés, ça n'a pas d'autres avantages, même si, attention, les femmes, j'en ai déjà beaucoup parlé, le jeûne intermittent n'est pas bon pour nous au regard de notre système hormonal, et la course à jeun ne doit surtout pas être systématisée, répétée trop souvent, il faut que ça reste quelque chose de relativement exceptionnel, vraiment. Alors, même si on peut le faire sur des périodes de vie... Moi, par exemple, l'été, je fais que ça parce que c'est le seul moment où on peut aller courir parce qu'après, il fait chaud. C'est pas grave. Ça dure un mois, deux mois. C'est pas grave. Mais il faut pas faire ça toute l'année, quoi.
Mais écoute, hey, tu vois, nickel. J'ai un petit truc à rajouter parce que tu as parlé du gâteau sport à Pyrone. Ils disent qu'on peut le manger jusqu'à 1h30 avant, en fait. Mais c'est parce qu'il était calculé exprès sur les trucs.
Tu vois, moi, c'est intéressant.
Et moi, je le fractionne en petits morceaux, en fait. C'est-à-dire que quand je faisais mes grandes sorties, par exemple l'an dernier sur le 496 challenge, où j'avais 30 bornes à faire, j'en faisais une grande partie tôt le matin. Je me disais, je peux pas manger le gâteau sport complet, c'est pas possible. Donc j'en mangeais un petit bout avant de partir, et puis le temps de me préparer, ça passait un petit peu. Puis j'en coupais des petits morceaux que je mettais dans mon sac et tout pour le faire passer sur le temps d'effort. Parce que c'était ma méthode et qui marche pas mal, hein, franchement, qui était assez efficace. Parce que moi, je vois un gâteau sport complet, le matin, je le passe pas. Je te garantis, j'ai pas envie de le manger, tu vois, ça passera pas. Par contre, je vais, ou comme tu dis, sur la route, tu vois, avant d'aller à une course, par exemple, aussi, c'est le genre de chose que je vais faire aussi. Et je sais qu'avec le gâteau sport, je le fais pas mal parce que c'est pratique, en fait. Voilà, c'était la remarque que j'ai à faire. Mais c'est vrai que moi, sur l'histoire du départ 5h30, c'est vrai que c'est galère quand on part comme ça. Si on part pour une sortie d'une heure, on s'en fout, en fait. Enfin, on peut partir à jeun, mais si on part sur un ultra, qu'on sait qu'on va courir pendant 15-20 heures derrière, on peut pas dire je pars à jeun. Et là, c'est sûr.
Non,
et
non.
C'est vrai que c'est des questions qui sont... Parce que, alors, Florence a posé cette question-là, mais il n'y a pas que Florence qui l'a posée. J'ai d'autres personnes qui m'ont posé cette question-là, de se dire, je me sens mieux en coureur à jeun, est-ce que je peux faire une course à jeun, etc. Donc, tu vois, c'était bien qu'on revienne dessus sur ces points-là, parce que je pense que c'est des questions qu'il y a beaucoup, beaucoup se posent, et c'était important de revenir dessus.
C'est bien, non, mais c'était cool cette question, elle était vraiment bien. Même si il y a plein de questions dans la question, on a essayé d'être le plus exhaustif possible, c'est pas forcément évident. Après, on a aussi fait des hypothèses, donc Florence sera sans doute indulgente avec nous parce que on a peut-être en partie déformé sa pensée parce que on n'avait pas toute sa pensée. Donc faut pas hésiter à revenir vers nous par rapport à ça. Mais en tout cas, on vous incite vraiment à nous reposer des questions de ce type, un peu complexes, un peu systémiques, qui nous permettent de dire des ça dépend. Pour revenir, ouais.
Ce que vous ne voyez pas, c'est que Laure, elle a un grand sourire quand on voit ce genre de questions-là. Et d'un coup, ça allume. Non, mais ça allume, en fait. Tu dis, ah, il y a ça, et
mais
tout.
Oui, mais
et
oui,
ça
mais
allume,
j'adore.
En fait, la mécanique globale de réflexion
Attends,
qu'on a autour de ça.
Est-ce que ça te permet de te convaincre que le ça dépend, il est intéressant?
Oui,
Merci,
écoute.
voilà, c'est ça que je voulais entendre.
C'était
Parce
ça
qu'en
que
fait,
tu voulais entendre.
depuis le début, Bertrand n'aime pas le ça dépend, mais le ça dépend est essentiel. La preuve, on vient de voir que ça dépend de plein d'éléments de contexte, de plein d'éléments de choses, de plein de choses. Et donc, voilà, je suis contente d'entendre que ça dépend. Voilà.
Je dis juste que ça dépend, c'est un peu l'argument de l'avocat du diable. Mais bon, écoute.
Pas du tout, c'est un argument qui permet de remettre en contexte et de justement ne pas apporter une réponse à la volée qui serait hors sol et totalement déconnectée de la réalité, bien au contraire.
Voilà. Bon, eh ben écoute, sur ce,
On a un petit run à faire, hein, c'est ça?
t'as bien démarré ta journée, je te sens bien d'attaque.
Parfait.
Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas d'être venu t'inviter dans ce conseil.
Bertrand, non, je ne me suis pas invité, je t'ai proposé. Tu m'as invité, j'allais dire, tu m'invites quand tu veux. Hein, d'accord, mais tu ne vas
Ouais.
pas dire que je m'invite. Tu m'invites quand tu veux dans le conseil du samedi, moi j'aime bien. Ça me plaît bien le format.
D'habitude, le conseil, pour tout, alors pour ceux qui ne le savent pas, le conseil, mais je dis en intro, je le répète, ce sont des réponses que j'apporte dans les questions du Hamster Zoning Club. Donc toute la semaine, il y a des questions qui sont posées dans le Hamster Zoning Club et tous les vendredis matin, entre 5h et 6h, je fais une petite vidéo que je publie comme ça après au lever, comme ça, c'est ma petite vidéo, je donne quelques news et tout. Et cette question-là, en fait, elle venait de WhatsApp. Quelqu'un me l'avait envoyé par Florence, me l'avait envoyé par WhatsApp et elle venait pas du Hamster Zoning Club. Et puis c'est vrai que des fois, il y a ces questions-là, j'en prends une et je dis tiens, je la mets dans le conseil parce qu'elles sont super intéressantes. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à venir dans l'Hamster Zoning Club. N'hésitez pas à contacter Laure, n'hésitez pas à me contacter. Là, tu vois, j'ai eu le cas Instagram, WhatsApp, Hamster Zoning Club et tout. Laure, tu as des messages. On a posté. Je mets ton compte Instagram de toute façon toujours dans la
Une
description
boîte à
désormais.
questions là
Et
pour
oui, et puis il
Bertrand
y a
pour
une
la
boîte
semaine
à
prochaine.
questions. Tu as anticipé en fait le truc de l'épisode qu'on a annoncé lundi. Non, mais alors, t'as été trop rapide sur ce coup-là, mais
Non
c'est
mais en
écoute.
fait j'ai pas réalisé mais je le referai lundi, c'est pas grave, je le referai
Non,
lundi.
mais écoute, j'espère que tu as eu des réponses en tout cas sur les premiers temps.
J'en ai eu, ouais.
Voilà. Donc n'hésitez pas, je le répète, si vous me suivez à Bertrand Soulier sur mon compte, vous allez voir, je vais relayer les trucs, etc. Si vous voulez me poser, que ce soit Laure qui me pose certaines questions, allez voir sur son compte. Ou sinon, vous allez sur mon compte, vous regardez Story, vous regardez son truc et vous verrez que vous pourrez me poser des questions. Et on va bien rigoler, j'ai l'impression. En tout cas, je les connais, ils sont un peu facétieux, je pense. Donc voilà. Bah écoute, je te souhaite en tout cas une très belle journée. Et puis on se retrouve,
Ouais.
nous, je parle des auditeurs, très très
Bah oui,
très
parce que
très
nous,
très
on se retrouve
rapidement.
très vite.
On se retrouve très vite. On a un débrief à
Un
faire.
débrief footing avec Bertrand à faire. Voilà,
Débrief
on va faire un
footing,
débrief footing.
le
À
blabla run,
distance, on précise, parce qu'on
ouais,
n'habite
à
pas à
distance.
côté.
On n'habite pas à côté. Un blabla run comme ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, donc l'épisode du lundi avec Laure, la Laure Perf. Avec un sujet qui est vraiment, et on parlera des femmes encore, et puis
Yes.
on a bien détaillé. L'invité de mercredi, allez, je vous le dis quand même, enfin je le dis, non je le dis pas, mais c'est un sujet qui est très important et
Monsieur, tu peux le
qui
dire.
mérite. Je le dis ou je le dis pas, la
Mais oui, c'est
thématique.
bien.
Allez,
C'est
je vais vous le
bien.
dire, la thématique c'est quand même le harcèlement sexuel dans le sport, dans l'athlétisme et notamment à
Ouais.
l'INSEP, autour de l'INSEP. Voilà, donc c'est enregistré, c'est programmé, c'est voilà, et c'est un sujet qui moi en tant que papa en tout cas m'a foutu un peu les boules. Donc c'est pour ça que le jour de la fête des droits des femmes, c'était important de parler de ce sujet-là qui était vraiment un sujet
International.
super important.
Tournée internationale.
Journée internationale, mondiale, voilà. Et puis bah après il y aura un homme. Je vais repartir avec des invités masculins. J'enregistre juste après notre blabla run et je suis très content parce que c'est un sacré
Pas
athlète.
n'importe quel homme.
Ouais, je
Ouais,
suis très très
ouais.
très très fier et de la thématique qu'on va aborder.
T'as
Mais
beaucoup de
là, j'en
chance.
dis pas plus. Je dis pas plus
Non.
parce qu'après ça nous amène très loin.
Invité mystère.
L'invité mystère. Voilà. Eh ben écoutez, sur ce, vous savez tout. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On fera les réponses, hein, comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao!
À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.